Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire, une émission animée par Jean-Pierre Lacanaille avec en régie et bien sûr micro ouvert Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Bonjour et alors Monique, c'est toi qui a fait qui a préparé la programmation musicale de cette émission. Et donc nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà, ça va être une émission complètement à l'envers, complètement décousue, absolument ou quasiment pas préparée, tout simplement parce que figurez-vous que je n'ai pas reçu la totalité de ce que contiendra le Monde Libertaire à sortir. Alors, bon, c'est tout de même parti pour ce tour du monde libertaire de ce journal sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste, le ML pour les intimes. Ce ML que vous attendez et qui sera très bientôt dans vos boîtes à lettres si vous êtes abonné, mais qui sera très prochainement en vente à Publico, au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf, fil du Calvaire ou République. Mais qu'on trouvera aussi dans d'autres endroits, comme par exemple le kiosque Colonel Fabien à Paris, hein, bien sûr, face au siège du Parti communiste, où, comme chacun et chacune le sait, on trouve les meilleurs merguez de Paris. Le kiosque Jaurès également, au début de l'avenue Jaurès, et puis le kiosque Lomière à la sortie du métro du même nom. Et puis, très bientôt, puisqu'elle rouvre le 2 septembre, à la bibliothèque sociale La Rue, rue Robert Planquette, dans le 18e métro Blanche, et qui est ouverte donc les samedis après-midi de 14h30 à 17h30. Là-bas, on trouve aussi le Monde Libertaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer, écrivez-moi Radio Libertaire, le Tour du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 75011, ou envoyez-moi un courrier électronique via le site de Radio Libertaire en précisant pour le Tour du Monde Libertaire. Et dites-moi où on trouve chez vous, à Paris, mais aussi ailleurs, le fameux Monde Libertaire. Alors, je ne vous donnerai pas l'édito, puisque je ne l'ai pas reçu, mais j'ai tout de même les faits divers, le fait divers de Jean-Marc Reynaud. Jean-Marc Reynaud, alors, il intitule son fait divers « Utopie libertaire », alors que la thématique de ce ML et son dossier s'intitule « Perspectives anarchistes ». Utopie libertaire, donc. Et Jean-Marc Reynaud commence très fort puisqu'il nous dit « Gouverner, c'est soi-disant prévoir ». Ah oui, gouverner, c'est prévoir. Pour l'heure, les forêts brûlent au Canada, en Grèce, en Espagne, au Maghreb. Les canicules se multiplient. Le manque d'eau s'invite au bal de pays pensant en être épargné. Nos gouvernants osent nous dire qu'ils n'étaient pas informés. Sont-ce des incompétents ? C'est flagrant. Des capitalistes de merde, c'est flagrant. Reste que, et ce n'est pas nouveau, la Terre est un espace fini. La piller jusqu'à la détruire et menacer les conditions même de la vie humaine, mais pas seulement, font de la logique capitaliste, une logique basée sur l'infini du pillage d'un existant fini. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Une logique basée sur l'infini du pillage d'un existant fini. Et sur le mythe d'une réponse technologique susceptible d'infinir le fini. Les anarchistes sociaux et autres révolutionnaires avaient plus ou moins compris cela. Plus ou moins. Le refus de l'exploitation et de l'oppression de l'être humain, c'est beau comme du Rimbaud. Mais si cela est nécessaire, est-ce pour autant suffisant ? Il convient donc d'aller au-delà et d'oser dire qu'il faut arrêter la course à toujours plus de croissance économique, démographique, etc., d'exploitation et de ressources finies, de pillage des biens communs. C'est tout bête. Gérer correctement les intérêts du capital terre, et cela d'une manière libertaire, c'est possible et c'est même souhaitable pour le bien de l'humanité. Il paraîtrait que nous serions des utopistes. Ah, des utopistes. On peut le voir comme ça. La maison brûle, vous appelez les pompiers qui n'ont plus d'eau. C'est bêta.
Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit mépris, comme des cœurments suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne fin, oui, foutu comme quatre sous, mon linge est sale, aussi mon âme. Et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge coûte à maintes et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise gris, rose. Là. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de poème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais conté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Jour de lessive, un texte de Gaston Coutet interprété ici par Loïc Lantoine dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire.
89.4. Merci, merci beaucoup Monique pour ce choix musical. Ah, alors en plus, vous voyez, c'est une émission qui n'est pas préparée, mais en plus nous avons un chien parmi nous qui a décidé de nous pourrir l'émission. Voilà. Alors, on va lui demander de bien vouloir se taire, n'est-ce pas? Et puis, voilà. Oui, parce que vous savez, on est pour la liberté d'expression, mais enfin, tout de même, pas au milieu d'une émission pareille. Alors, dans le monde libertaire, ce monde libertaire 1853, vous savez pourquoi elle crie, la chienne? Parce qu'elle sait que je vais parler, elle sait que je vais parler des rencontres internationales anti-autoritaires de Saint-Imier. Alors voilà, et oui, vous le savez sans doute, vous le savez peut-être l'ignorez-vous, des rencontres internationales anti-autoritaires se sont tenues à Saint-Imier dans le Jura suisse du 19 au 23 juillet de cette année. Et donc, évidemment, c'est pas n'importe où, parce que c'est sur ce site site historique de Saint-Imier qu'on a vu naître en 1872 la première internationale anti-autoritaire. Donc voilà, c'était important. Eh bien, ça s'est passé un peu moyen quand même, puisque nous avons dans Le Monde Libertaire, que vous allez bientôt pouvoir vous procurer, un communiqué de la Fédération anarchiste à propos de ces rencontres de Saint-Imier 2023. Et ce communiqué nous dit « La Fédération anarchiste, co-organisatrice des rencontres internationales anti-autoritaires de Saint-Imier du 19 au 23 juillet 2023, s'y est impliquée comme convenu par un investissement militant et financier important. Cette édition, voulue très ouverte, a rencontré un franc succès, au vu du nombre important de personnes présentes, ainsi que du nombre et de la qualité des événements proposés. Des rencontres de cette ampleur ont évidemment leur lot de dysfonctionnements et la Fédération anarchiste en a fait particulièrement les frais. Mais d'autres graves problèmes concernant la gestion des conflits, l'organisation globale, se sont également apparus. Certains comportements bien peu compatibles avec les idéaux libertaires défendus sur ce site historique qui, comme je vous le disais, a vu naître la première internationale anti-autoritaire en 1872 et dont ces rencontres étaient un anniversaire, ne doivent pas occulter le succès rencontré et le fait que les idées anarchistes mobilisent de plus en plus de monde. Nous reconnaissons les divergences de points de vue et de modes d'action, mais rejetons et dénonçons fermement les méthodes autoritaires parfois utilisées lors de ces rencontres. La Fédération anarchiste se garde bien de réagir à chaud et prendra le temps d'élaborer une analyse politique de la situation. Et c'est signé Fédération anarchiste d'expression francophone. Et alors, toujours au sujet de ces rencontres internationales, un communiqué des relations internationales de la Fédération anarchiste intitulé « Vive la solidarité internationale » et qui nous dit que nous remercions les soutiens solidaires à l'international sur place et dans les jours qui ont suivi. Soutien donc à la déclaration que je viens de vous lire, écrite dans l'urgence. Non, d'ailleurs, c'est pas celle que je viens de vous lire, je vous dis n'importe quoi. C'est une déclaration qui avait été faite à chaud et qui n'est pas reproduite dans Le Monde Libertaire dont nous parlons ce soir. Ouais, ça, c'est vraiment... Voilà, quelle émission pourrie aujourd'hui. Bon, allez, on se reprend. Donc, en tout cas, une déclaration qui n'est pas un communiqué de la Fédération anarchiste, mais qui est signée par un tas de groupes et d'organisations libertaires. Donc, cette déclaration nous dit « Le berceau de l'anarchisme deviendra-t-il son tombeau ?» La table de presse tenue par les militants et militantes de la Fédération anarchiste francophone dans le Salon du Livre des rencontres internationales anti-autoritaires de Saint-Imier 2023 a subi plusieurs agressions. Livres volés, déchirés, souillés, brûlés, intimidations, agressions physiques. Ces actes sont contradictoires avec les principes fondamentaux de l'anarchisme, la liberté d'expression, la lutte contre la religion, toutes les religions, et les pouvoirs théocratiques. La solidarité, bien sûr. Ces actes sont aussi dangereux parce qu'ils instaurent une police de la pensée faisant écho au pire régime que nous combattons. Contre l'obscurantisme et l'intolérance, mobilisons les forces libertaires. Saint-Imier, le 23 juillet 2023. Et donc, pas mal d'organisations ont été signataires de cette déclaration. Déclaration donc publiée à chaud à Saint-Imier le 23 juillet. Donc la liste des organisations, c'est l'anarchiste communiste groupe Great Britain, de Grande-Bretagne donc, Barricada de Libros Portugal, Delegation of Anarchist Political Organization APO in Saint-Imier de Grèce, Édition Noir et Rouge et Chronique Noir et Rouge de France, Groupe Libertaire SAT Esperanto, la Fédération Anarquista Ibérica, Espagne, Federazione Anarchica Italiana, la faille d'Italie, la Fédération Anarchica Siciliana, ah oui, la Sicile, la Fédération Anarchiste, alors là, je ne sais pas vous le dire, on va dire Fédération Anarchiste, hein, de Slovénie-Croatie, la Fédération Libertaire Argentine, Initiative fédéraliste anarchiste Brésil, Imprenta Comunera de Colombie, Kurdish Speaking Anarchist Forum du Kurdistan, la commune Ravenna, Italie, les Amis de Mai de Saint-Nazaire en France, Mujeres Libres en Espagne, Nada Édition en France, et alors un truc absolument imprononçable, Allemagne, je ne sais pas ce que ça veut, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais enfin voilà, c'est une organisation allemande. Voilà donc pour ce que nous dirons à propos de Saint-Imier pour cette fois. Alors, j'ai quelques pages, j'ai reçu quelques pages tout de même du terrain des luttes. On va écouter une petite chanson. Et puis on se retrouve pour vous raconter une histoire d'eau.
Imaginons que nous vivions une démocratie policière.
T'exagères ?
Ouais.
Qu'il y ait des caméras partout et de la biométrie dans l'air.
T'exagères ?
Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue. Au cas où on soit trop têtu.
Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
Ah, quand même.
Eh, monsieur l'agent.
Mademoiselle.
On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier ce souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique.
En plus, les comédiennes sont belles.
Eh, y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution.
On pourrait, pourquoi se gêner, tomber dans la provocation. De se faire arrêter en entonnant « Cache-toi, pauvre con !» Et ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution.
Chasseurs d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour.
C'est pas d'éthique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La
les exciter,
évoquer le squat de Montreuil,
les lycéens qu'ils ont matraqués,
et Joachim qui perd un œil,
oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
La révolution. situation, difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson, on est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter.
Démocratie policière, c'était la compagnie Joli Môme dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et au secours, nous dit Ramon Pinault, au secours. Les étés se suivent et se rassemblent, fait chaud, de plus en plus même. Et l'eau devient une denrée rare. Et qui dit rare, dit cher. Ce qui n'est pas pour déplaire à certains capitalistes. Nous y reviendrons plus loin. Fait chaud. Les médias focalisent sur le spectaculaire incendie de plus en plus gigantesque dans différentes régions du globe. Californie, Canada, Russie, la France n'y échappe pas non plus. Les températures sont de plus en plus élevées, les épisodes caniculaires ne sont plus exceptionnels, mais deviennent presque la norme, comme cet été. En Grèce, Italie, Espagne, et là aussi la France est concernée. Les nappes phréatiques ne se reconstituent pas et rien ne semble indiquer qu'elles vont l'être dans un avenir proche. Fait soif. La pénurie d'eau touche actuellement 700 millions de personnes dans 43 pays. En 2025, selon certaines prévisions, 1,8 milliard de personnes vivra dans des régions ou pays touchés par une pénurie d'eau complète, et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique, ressources insuffisantes pour répondre aux différentes activités humaines et aux besoins de l'environnement. Les causes ? La pollution, le dérèglement climatique, la mauvaise utilisation des ressources, et il ne s'agit pas là de catastrophisme éructé par quelques associations écolo-gauchistes. Même l'ONU avertissait déjà en 2015 dans son rapport annuel de la nécessité de changer radicalement la façon d'utiliser et de partager ses ressources. Au passage, notons qu'en Afrique subsaharienne, les corvées d'eau sont assurées par les femmes et les filles qui y consacrent en moyenne 4 heures par jour. De nombreux pays ont développé le nombre de puits prélevant l'eau au moyen de pompes pour accroître la productivité agricole. Pas forcément pour répondre à la demande alimentaire de ses habitants, mais plutôt pour l'exportation et les devises que ça pourrait rapporter. On en parlait dans Le Monde Libertaire du mois de juin. Fait chier ! En France, nous sommes, nous aussi, maintenant dans ce contexte de sécheresse, avec des nappes phréatiques qui ne se rechargent pas suffisamment. Nos ressources d'eau, actuellement, sont utilisées selon cette répartition. Oh, ah là là, attendez une minute, j'ai un problème technique. Je vous l'avais dit que ça serait le bordel aujourd'hui. Mais bon, on va quand même s'en sortir. Alors voilà, je retrouve la suite de mon papier. Donc nos ressources d'eau actuellement sont utilisées selon cette répartition. Elle se marre dans sa cabine. Elle me voit galérer et ça la fait rire. Nos ressources d'eau donc actuellement sont utilisées selon cette répartition. Eau à usage agricole, 58% du total. Eau potable, 26%. Eau nécessaire au refroidissement des centrales nucléaires, 12%. Eau à usage industriel, 4%. En 2022, en France, du fait des périodes de sécheresse et de canicule, 700 communes se sont trouvées privées d'eau. Chaque commune choisit son fournisseur d'eau. Ceux-ci se répartissent le marché de la manière suivante. Veolia, 26 millions de consommateurs. Suez, 10 millions, mais 95 dans le monde. 95 millions, bien sûr. SAUR, SOR, Société d'aménagement urbain et rural, 7 millions. fait peur. D'ici 2050, la demande en eau augmentera de 55%. Il va donc falloir, malgré ce que peut raconter la FNSEA, se tourner vers une agriculture moins gourmande en eau. Et comme il est probable que ça ne suffira pas, il faudra avoir recours aux eaux usées et les traiter. Parallèlement à cela, n'oublions pas la voracité de grandes sociétés dont les besoins en eau sont faramineux. Ainsi, Nestlé, groupe suisse, est devenu propriétaire de Vittel et pompe allègrement 800 000 mètres cubes d'eau par an. Autre grand gourmand planétaire, Coca-Cola. 2,5 litres sont nécessaires pour obtenir un litre de Coca. 40% pour la production, 60% pour le processus de fabrication, rinçage, chauffage, clim, nanana. Sans oublier que 100 milliards de bouteilles en plastique par an sont nécessaires pour conserver ce précieux breuvage. Et sans oublier non plus certains dégâts sur la santé, à commencer par les problèmes d'obésité. Au Mexique, la consommation de Coca est de 225 litres par personne et par an. 225 litres par personne et par an. C'est au Mexique que Coca-Cola installe ses usines et pompe l'eau à volonté. Les Yankees ne sont pas fous. Résultat, au Mexique, un litre de Coca est moins cher qu'un litre d'eau. D'où la blague très répandue là-bas. Comment dit-on eau potable en mexicain ? Réponse : ne soufflez pas, Coca-Cola. Mais le problème est mondial. Comme le capitalisme. Demain, il y aura un risque de guerre pour l'eau, car de bien commun, certains veulent en faire un bien privé. La solution, elle aussi, devra être mondiale, où les populations se feront la guerre, pour le plus grand plaisir et profit de leurs dirigeants, où ce sont les valeurs d'entraide qui prévaudront avec ce qui y va avec la fin des frontières et de l'exploitation des humains par d'autres humains, à nous toutes et tous de décider et de nous retrouver du même côté de la barricade.
Tous les deux on pousse nos haillons dans un igloo à bon marché, sous les toits d'une masure bidon, en compagnie des araignées. Toi tu vis ta vie d'alcoolique entre ces quatre murs lamentables. Moi je bricole et je fabrique des chansons qui sont invendables. Twist et chante, moi je flippe. Twist et chante, on bouffe une fois tous les trois jours avec des boîtes de cassoulet qu'on arrive à paler en douce dans leur superbe supermarché. Et quand on est à bout de fric, tu fous le camp chez les émigrés, leur faire découvrir l'Amérique dans des passes non déclarées. Twist et chante, twist et chante, moi je flippe. Et quand je m'en vais prendre l'air du côté des femmes faciles, tu te jettes sur la bouteille d'éther pour ton vol plané à 2000. On ne sème plus d'amour et d'eau fraîche, la vue de l'eau te fait hurler, et notre amour à coups de dèche, c'est peu à peu désintégré. Twist et chante, moi je flippe. Twist et chante, moi je flippe. On vit comme ça par habitude, et surtout parce que c'est pratique de pallier la solitude en buvant à la même barrique. ça peut durer jusqu'à toujours, à moins que l'on ait le courage de se dire merde un beau jour et de mettre fin au naufrage. Twist chante, moi je flippe. Twist chante, moi je flippe.
La dèche, le twist et le reste. Hubert Félix Thiéfen, vous écoutez Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4.
Et c'est reparti donc, toujours dans les pages terrain de lutte, l'aliénation par les colis. Ah, alors ça, je ne m'attendais pas à trouver un papier comme ça. Et pourtant, il y a des choses à dire, beaucoup. Patron de bar, je suis avec mon associé depuis le confinement lié à la pandémie de Covid-19, relais pick-up. Mais qu'est-ce que c'est que ça, relais pick-up ? Eh bien, de manière à proposer des coûts attractifs, le groupe La Poste propose que les clients reçoivent leurs colis dans un commerce agréé. Les transporteurs concernés sont La Poste et ses facteurs, marque Colissimo, et des sous-traitants marque Chronopost ou DPD. Cette activité est très faiblement rémunératrice, de 0,25 à 0,50 euros le colis selon l'encombrement, pour donc les commerçants partenaires, avec en sus une TVA à 20%. Il existe aussi la variante avec la consigne métallique à l'entrée ou à l'extérieur des supermarchés, on en a vu, des stations-service et j'en passe. Par ailleurs, le développement du retour pris en charge est un coup de génie qui a pris son essor avec le développement du retour pris en charge avec... Pardon, je suis parti, ça y est, je suis encore perdu. Vous savez, parce que, bon, je vous explique. D'habitude, quand c'est bien fait, quand c'est préparé, tout est écrit, c'est trop facile. Et alors là, j'ai un ordinateur devant moi et comme il faut que je fasse défiler la page, je perds la ligne sur laquelle je suis. Enfin bon, c'est un véritable enfer. Donc il existe aussi la variante avec la consigne métallique à l'entrée ou à l'extérieur des supermarchés, des stations-service et j'en passe. Et par ailleurs, le développement du retour pris en charge est un coup de génie qui a pris son essor avec le développement de ce service depuis 10 ans. À tel point que le client qui doit renvoyer son colis en payant le fait de très mauvais cœur, et parmi les grands usagers de la chose, il y a les opérateurs de téléphonie et d'internet qui proposent d'échanger le matériel dans les relais en question. Le marché de la seconde main reste une forme de capitalisme. Vinted est fondé en Lituanie en 2008 par de jeunes gens gérés depuis par un autre. Le fondateur et la fondatrice, trop ambitieux, ont voulu attaquer le marché états-unien et ont fini par être remerciés par les actionnaires. Vinted exploite le marché de la seconde main, une ligne pour des motifs louables, de consommation différente et de soucis environnementaux. Les citations sont de la bouche de la fondatrice. L'entreprise a récemment débarqué sur le réseau Pickup via Chronopost et depuis, l'import-export de colis par nos clients a augmenté de manière incroyable. Certains en font même un vrai commerce. Le Canard Enchaîné avait révélé qu'une personne avait même eu des démêlés avec la CAF à propos de ses revenus Vinted. Mieux encore, Ouest France s'est fait l'écho de jeunes ayant fait fortune avec Vinted en revendant plus cher des vêtements achetés à bas coût. Et ce n'est pas la récente arrivée du Bon Coin qui va arranger la situation. Les gens reçoivent, essayent ou pas, et renvoient souvent dans la journée. Ils prennent, ils jettent, c'est bien de la consommation différente, sans aucun doute. Et quid des valeurs de Vinted et de tout toutes ces autres boîtes parasites dont les patrons se gargarisent. Et oui, excite la solidarité et le don. Les associations laïques comme le Secours Populaire ou religieuses comme Emmaüs, etc., signalent une diminution des dons depuis l'apparition de des sites de petites annonces sur Internet. Plus encore depuis l'essor de ce que les capitalistes appellent le marché de la seconde main. Les applications telles que Vinted n'arrangent rien, bien au contraire. Maintenant, tout est monnayable. Pourtant, on peut lire de-ci, de-là, avec une larme à l'œil, l'apparition d'un repère café ou l'ouverture d'un vide-grenier. Pourtant, il faut constater que maintenant, le produit usagé est devenu une marchandise comme une autre qui permet à certains et certaines de devenir millionnaires. Tant mieux pour eux et pour elles. Excite l'environnement! Les colis font des kilomètres pour aller dans un autre réseau en parallèle de celui de la poste et en font autant en retour quand les gens oublient de venir les chercher parce qu'à tant commander, on finit par oublier qu'on a commandé des colis. Combien de fois ai-je rappelé à une personne qu'elle avait un colis en attente ? Là encore, la cause environnementale est marketing, en plus de s'offrir une conscience à pas cher. En quoi la revente de produits fabriqués en Asie du Sud-Est, achetés dans un magasin ou déjà en ligne, puis revendus en ligne, est plus écolo que d'aller les chercher dans une friperie ? Dans ce dernier cas, au moins, on peut espérer économiser en carbone. Et les serveurs, pour faire fonctionner ce bousin, et les centrales électriques pour recharger le téléphone intelligent, une fois que sa batterie au lithium polluant crie famine. Excite aussi les conditions de travail décentes. Les livreurs et livreuses qui bossent pour les sous-traitants du groupe La Poste ont des statuts extrêmement variables, depuis l'ubérisés, tel le héros de « Sorry, we missed you » de Ken Loach, je ne l'ai pas vu, à nos salariés précaires de petites boîtes de transport, sans compter la dégradation constante du service postal et du statut des postiers. Ça, je l'ai vu. Au motif de numérisation du monde, bien entendu, et plus simplement de l'externalisation d'une partie du boulot avec les travailleurs indépendants, franchisés, relais pick-up, etc. Face à cette évolution du capitalisme, les anarchistes ne peuvent pas grand-chose, et moins encore s'ils et elles ne veulent pas être complètement coupés du monde. Pourtant, il n'y a guère d'autres alternatives que de refuser le commerce en ligne, plus encore celui de seconde main, de rester sourd aux appels répétés à la consommation effrénée, et peut-être aussi de refuser le smartphone, outil d'asservissement indéniable, nous dit Guédoné Kerdivel du groupe La Sociale de Rennes.
Encore un cri, voilà que la vie recommence. Voilà qu'elle s'offre encore au dernier venu, comme une erreur, un signe de non-providence, comme un cadeau que tant d'autres n'ont pas voulu. L'enfant qui vient s'éloigne de sa délivrance. Il quitte ce pays qu'il ne reverra plus. Ses bras tendus mesurent déjà la distance entre son corps libre et le paradis perdu. On vient au monde après de vaines résistances, tant de douleurs qui nous resteront bien longtemps, comme la preuve utile de toute existence. Au rendez-vous des premiers désenchantements, y a-t-il une autre vie après la naissance ? Encore un cri, voilà que débute l'errance. Par les sentiers battus, l'enfant pose ses pas. Dans le sourire étonné de son ascendance, on pourrait voir le chemin qu'il ne fera pas. qu'il soit né dans la périphérie de nos villes ou le fin fond des belles campagnes de France, l'enfant saura qu'il hérite de sa famille en un seul jour de son malheur ou de sa chance. On vient au monde et ce n'est une récompense qu'au prix d'un combat qui débute maintenant, comme la preuve utile de notre existence. Au rendez-vous des tout premiers enchantements, pour qui veut croire à la vie après la naissance. Les contes de fées trahissent la jeunesse. Quelques gestes d'amour pourraient bien tout changer. L'enfant qui vient connaît déjà ce qui le blesse. La seule issue rêvée vient de se refermer.
Requiem pour une naissance, c'était Louis Capard. Dans le tour du monde libertaire. Oh, pardon. Ah, ben voilà. C'était reparti tout seul.
Il fallait bien que ça.
Ah, ben oui, il fallait bien.
De toute façon, cette émission est faite comme ça. voilà, il faut vous y habituer. Enfin, non, ne vous y habituez pas parce que ça ne sera pas toujours comme ça.
Non, non, ce sera pas toujours.
Profitez-en.
Oui, voilà. Profitez-en.
Pour vous moquer de nous.
Non, mais là, on travaille sans filet.
Alors là, on est sans filet, oui. C'est sûr. C'est à moi, là, maintenant ?
Oui, c'est à toi.
D'accord, ok. Okay. dans ce monde libertaire, numéro 1853 de septembre, donc, de cette année, un article d'histoire sur l'anarchisme au Portugal. Alors, pour les lecteurs et les lectrices assidus, vous vous souvenez peut-être qu'il y a, on me dit que c'est suite à un article publié dans le numéro 1847, on va dire il y a environ 6 mois, on revient donc sur l'anarchisme au Portugal, mais cette fois-ci après le coup d'État militaire du 28 mai 1926 qui mit fin à la République libérale et démocratique des partis politiques et instaura une dictature autoritaire avec un gouvernement militaire et la suppression des élections libres, du suffrage universel et de la liberté d'expression. La presse fut surveillée par les militaires et les partis politiques dissous. Ah, voilà, comme ça au moins on est tranquille. Hein. Ainsi, l'espoir d'une révolution sociale en tant que fruit d'une large alliance entre anarchistes, syndicalistes, libertaires, de la Confédération Générale du Travail et autres forces de gauche, socialistes, communistes, républicains, fédéralistes, fut vaincue par les militaires réactionnaires et leurs alliés, l'Église catholique. La banque et les monarchistes qui avaient vaincu en 1910, mais attendaient toujours une revanche sur la République démocratique. Répression sous la dictature de Salazar. Toutes ces forces de gauche, après le coup d'État militaire de 1926, ont essayé de résister à la dictature militaire. Les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires, organisés dans la CGT et dans l'Union anarchiste portugaise, se sont mis ensemble, plusieurs fois, avec les républicains, qui étaient à l'époque les plus forts et les mieux organisés, avec une influence considérable sur une partie de l'armée et de la marine. Par contre, les socialistes et les communistes étaient très minoritaires. À la suite d'un soulèvement militaire et populaire en février 1927, qui a fait des centaines de morts et plus d'un millier de blessés, les installations de la CGT à Lisbonne, où fonctionnaient le comité confédéral et la rédaction du quotidien ouvrier à Bataia, furent détruites par la police et les militaires. En conséquence, les organisations ouvrières et leur journal passèrent à la clandestinité, d'où elles ne sortirent pas jusqu'à la révolution de 1974. Une longue nuit de quasi 50 ans, sans aucune liberté de parole, de presse, d'organisation et de manifestation. En même temps, les mesures autoritaires de la dictature militaire s'aggravèrent avec le durcissement de la censure des tribunaux spéciaux, des persécutions politiques et l'impossibilité de faire revenir au Portugal les exilés de Madrid et de Paris, suite à la révolte de février 1927. La création d'une police secrète politique fut aussi une des conséquences de la dureté de la dictature militaire. Par contre, les organisations politiques d'extrême droite, liées à l'Église catholique ou même fascistes, admiratrices de Mussolini et de son régime totalitaire à parti unique, furent de plus en plus bien accueillies au sein du gouvernement de l'État, qui ne tarda pas à devenir corporatiste et fasciste avec la constitution de 1933 élaborée par Antonio de Oliveira Salazar, né en 1889 et décédé en 1970. Ancien séminariste et ancien député catho-monarchiste pendant la République démocratique, professeur d'économie à l'université de Coimbra, Salazar arriva pour la première fois au gouvernement en 1928 en tant que ministre des Finances et devint en 1932 président du Conseil des ministres, poste qu'il occupera jusqu'à son coma en 1968. Et on écoute une petite chanson et on revient après le coma de notre ami Salazar.
Le monde est rond comme un dollar, sur des galaxies par millions. Il faut avouer qu'on est vénard de vivre au soleil du pognon. On se dort sous les rayons comme un article en magasin. On se jette au fil des saisons, on se vend au gré des besoins. Le monde est beau comme un désert, les pauvres sur le sable fin. C'est le luxe de la misère et des pays qui meurent de faim. On a le nez vers la lumière, ébloui par tant de bonheur. On en oublierait la manière dont les crémiers ont fait leur beurre. Le monde est gai comme un pinson, une clé d'or à la portée. Il s'écrit partout des chansons, c'est le monde des variétés. Danse et chante partout la joie, c'est un spectacle permanent. Il importera toutefois que la caméra ait du talent. Nos princes héritiers de Midas ont modernisé la pratique qui consiste, c'est dégueulasse, à transformer les larmes en fric. Et baignant dans cet océan d'une incomparable richesse, nous invite à en faire autant, c'est bien là que le bas nous blesse. Si vous croyez qu'on est content avec ce que vous proposez, c'est que vous ne sortez pas souvent de vos milieux, de vos quartiers. Si vous croyez qu'on est heureux avec ce que vous promettez, vous vous mettez le doigt dans les yeux, un peu plus loin que vous pensez. We'll be right back.
le monde est rond, les chanteurs livreurs. Vous écoutez toujours le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et retour donc à cet article signé Geronimo Leal, l'anarchisme au Portugal. Alors, avant cette chanson de nos amis, les chanteurs-livreurs, on parlait de Salazar, président du Conseil de 1932 à 1968, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma, ce pauvre garçon. C'est lui, donc Salazar, l'idéologue et le fondateur du régime fascisant portugais, inspiré par le corporatisme mussolinien, qu'il appela Estado Novo. Ah, l'État nouveau, ça c'est toujours une merveille. Et c'est lui qui confisqua en sa faveur tout le pouvoir politique. Il fut ministre de la guerre, de la défense, de la marine, des affaires étrangères, des colonies, des finances, pendant des longues années, en dehors d'être le tout-puissant premier ministre et homme clé du parti unique, União Nacional, pendant plus de 35 ans. Réaction des anarcho-syndicalistes. Les dispositions sur l'organisation du travail de la nouvelle constitution, les mesures répressives prises par le nouvel autocrate, la fascisation des syndicats à partir de septembre 33 en tant que syndicats nationaux corporatifs obligatoires sans alternative suscitèrent à la CGT un fort mouvement de résistance. Héritière de l'ancienne CGT du temps de la République libérale, la CGT clandestine comptait encore en 1933 un réseau fédéral de plus de 700 syndicats éparpillés dans tout le pays et était soutenue par une bonne poignée de militants courageux, efficaces et résolus à répondre par la lutte aux lois contre le syndicalisme libre et pluriel. Avec l'appui des socialistes et des communistes qui avaient leurs propres organisations syndicales, toutefois beaucoup plus petites que la CGT anarcho-syndicaliste. Une grève générale révolutionnaire exigeant la révocation de la nouvelle législation syndicale fut envisagée dès l'automne 1933 et dans les difficiles conditions politiques du moment, minutieusement préparée pour le début du nouvel an. La grève de 1934, la grève insurrectionnelle, éclata le 18 janvier de cette année-là, en touchant toutes les régions du pays. Aucune grande ville n'a échappé au mouvement et, dans les plus importantes, il y a eu des sabotages et des boycotts dans les transports et les communications et encore des émeutes. On a même vu une insurrection avec prise du poste de police, occupation de la mairie et contrôle total de la vie communale par des centaines d'ouvriers avec l'appui de la population locale. Ce fut le cas de la petite ville ouvrière de Marinha Grande, dans la région centre-littorale du Portugal, avec une puissante industrie du verre qui, pendant quelques heures, fut gouvernée par un conseil ouvrier local. Des régiments de hussards venus de la ville voisine de Leiria, avec l'appui de l'aviation militaire, ont pu réoccuper la commune en même temps que les ouvriers désarmés s'enfuyaient dans l'épaisse forêt environnante. Ils ne tardèrent pas à y être poursuivis et matraqués. Cette grève générale révolutionnaire fut suivie d'une vaste répression et fit dans les jours suivants environ 700 prisonniers auxquels on doit ajouter les autres qui furent arrêtés préventivement avant le déclenchement de la grève. Les militants de la CGT et les grévistes furent incarcérés et rapidement jugés dans des tribunaux militaires. La plupart d'entre eux furent condamnés au bagne et à la déportation en Afrique pour de longues années. Le secrétaire général de la CGT, qui fut aussi le dernier directeur du quotidien A Batalha, au temps de la République démocratique, Mario Castellano, fut de ceux qui moururent dans un camp de concentration sans aucune condition de salubrité dans les îles africaines du Cap-Vert. Éprouvé pour la première fois en 1936 avec des prisonniers de la révolte de 1934, ce camp officiellement appelé Tarrafal fut connu sous le terrible nom de « camp de la mort qui tarde ». Il est une des pires catastrophes du fascisme et une des réalisations les plus honteuses du régime de Salazar. Avec Mario Castellano, plusieurs autres dirigeants de la CGT périrent au même endroit dans une situation affreuse. Ceux qui ont survécu restèrent longtemps oubliés en prison et, seulement quelques années après la défaite de l'Allemagne, furent libérés. Les persécutions contre les anarchistes après les événements de janvier 1934 ont naturellement neutralisé la CGT, provoquant de grands changements dans le camp révolutionnaire. Le silence qui se fit de plus en plus autour des anarchistes ne put être compensé que par quelques actes encore tenaces et puissants, comme l'attentat contre Salazar en 1937 qui faillit le tuer. La responsabilité de l'attentat vint d'un jeune militant ouvrier libertaire, Emidio Santana, qui, à la suite, fut condamné à une dure peine de prison, suivie de déportation. Il décédera en 1988. La montée en puissance des communistes, évidemment complètement hors la loi avec tous ces militants en prison ou en exil, la plupart en Espagne où ils participèrent à la révolution dans les rangs de la FAI, l'activité libertaire et anarcho-syndicaliste au Portugal retomba encore plus bas après la défaite du camp républicain espagnol en 1939. Le principal bénéficiaire fut le Parti communiste portugais, hein. Parti ouvrier né en 1921 au sein même de la CGT. À ses débuts, le Parti communiste portugais se disait syndicaliste révolutionnaire, affirmant que son but était de bâtir une société libertaire. Il identifiait la dictature du prolétariat avec l'organisation syndicale qu'il voyait comme l'embryon de la nouvelle société. Dictature du prolétariat et dictature syndicaliste étaient, selon lui, la même chose. L'évolution de la révolution russe et du parti bolchevique, la conception léniniste de l'État comme jalon majeur, l'interdiction de toute propagande critique, les persécutions féroces contre les anarchistes et l'anarchisme, les changements encore plus âpres survenus après la mort de Lénine, ont définitivement séparé les communistes des anarchistes, qu'ils virent d'abord comme des concurrents à neutraliser, et après comme les pires ennemis à abattre à tout prix. Se montrant un parti d'attaque et d'initiative, présentant Moscou comme l'avant-garde du socialisme mondial et Staline comme le plus grand adversaire du capitalisme. Le Parti communiste portugais fit retomber sur les anarcho-syndicalistes toutes les défaites du passé, essayant d'attirer dans ses rangs la jeunesse et de fortifier son organisation syndicale, jusque-là insignifiante. Il gagna plus d'audience, et pas seulement dans le monde ouvrier avec les victoires militaires de l'armée rouge soviétique contre l'Allemagne nazie, le terrain ainsi perdu par les anarchistes ne fut plus récupéré, même après la révolution des œillets. Avec le coup d'État du 25 avril 1974, qui fut suivi par une révolution populaire et autogestionnaire, les vieux libertaires qui survécurent aux prisons de Salazar essayèrent de donner un nouveau souffle au mouvement libertaire. Et le 19 juillet 1974, un premier meeting à Lisbonne fêta la révolution espagnole de 36 et fut le premier moment où la FAI se présenta en liberté dans la péninsule après la défaite de 39. En septembre, le vieux journal A Batalha sort à nouveau avec un tirage de 30 000 exemplaires sous la direction d'Emidio Santana, tête de l'attentat de 37 contre le dictateur. Il était sous-titré « Journal syndicaliste révolutionnaire ». Malgré les efforts, malgré les contacts avec des compagnons français bien préparés, malgré même le renouveau de la CNT espagnole en 76 et 1977, il ne fut pas possible de refonder l'anarcho-syndicalisme au Portugal. Les temps avaient irrévocablement changé et l'audience et l'initiative dans le monde du travail revenaient aux staliniens du Parti communiste portugais et aux sociaux-démocrates du PS. Avec des syndicats ficelés par une législation qui ne mettait pas en danger le capital et le salariat. L'anarchisme au Portugal devient alors une toute autre histoire marquée par des luttes en dehors du monde du travail. Et pour abréger, c'est aujourd'hui une mouvance qui insiste sur la démocratie directe, le fédéralisme, la nécessité de préparer la substitution de l'État par l'auto-administration et qui rejoint au nom de la nature la critique du productivisme et de l'industrialisme des maisons d'édition Letra Livre et Barricada de Libros, des journaux Abataya, toujours vivant, et Mapa, celui-ci avec un tirage de 3000 exemplaires, des revues Aideia, celle-ci fondée à Paris en 1974, et Flauta de Luz, des espaces autonomes et autogérés qui sont en train d'éveiller un esprit critique et de favoriser une prise de conscience sur l'urgence à changer de système. Les jeunes générations anarchistes au Portugal n'imitent plus leurs ancêtres, mais elles s'inspirent de leur exemple et mettent leur expérience à profit.
Y'a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Au fier messager de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues, se taille un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. On gommera nos masques tristes, nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Je suis humain, Éric Frasiak. Vous écoutez toujours le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et dans ce monde libertaire, le numéro 1853 à paraître dans quelques jours, une bande dessinée, de l'histoire en bande dessinée, avec en avant-première quelques-unes des premières pages du tome 2 de la bande dessinée de Jean-Pierre Ducret, à paraître aux éditions Libertaires, 208 pages, 30 euros, en vente à Publico et sur éditionslibertaires.org. La révolution russe en Ukraine, Nestor Makhno. Nestor Makhno est né en 1888 en Ukraine. D'origine paysanne, Et en 1906, il rejoint un groupe anarchiste et est condamné à mort en 1910, peine commuée en perpétuité. Libéré en 1917, vive la Révolution, il rejoint l'Ukraine où il fonde un mouvement insurrectionnel mettant en œuvre le communisme libertaire qui perdure jusqu'en 1924 contre les Blancs, les Allemands et les bolcheviks. Son armée de partisans comptera jusqu'à 100 000 hommes. Son histoire personnelle est à l'image de la Makhnovtchina. Incroyable, mais vrai, qu'on en juge donc avec cette bande dessinée. Et puis, je fais un grand saut de puce, parce que je passe de la page 13 à la page 47. Ouais, parce que, voilà, je vous disais tout à l'heure, on avait un dossier intitulé « Perspectives anarchistes », mais le dossier en question, il n'est pas encore mis en page. Je ne l'ai pas sous les yeux et je ne peux pas vous en parler. Bon, on espère en tout cas que si le journal n'est pas encore complètement terminé et qu'ils n'ont pas été en mesure, nos camarades du comité de rédaction du Monde Libertaire, de m'envoyer la totalité de la maquette, c'est que ça doit être vachement riche et que peut-être les articles sont arrivés un petit peu plus tard que prévu. Vu. Enfin, j'espère. De toute façon, là, actuellement, j'imagine très bien l'équipe du comité de rédaction. Ça doit être une véritable fourmilière. Et ils vont nous sortir quand même ce journal dans les délais. Soyez rassurés, il n'y a que moi qui galérerai avec ce numéro du Monde Libertaire. Donc, page 47, donc, les pages culture, avec un article qui nous parle des cinquièmes journées du printemps libertaire de la Havane, intitulé « Entre effondrement et volonté ». Cuba plombé dans les sanctions américaines, une gestion intérieure chaotique et un exode sans pareil de ses forces vives s'enfonce dans la misère. La population cubaine n'en peut plus des pénuries et de la répression du régime castriste. Les Cubains ont rompu le mur de la peur en descendant manifester massivement dans la rue en juillet 2021. Une violente répression a fait taire momentanément cette colère contenue. Dans ce contexte, nos compagnons anarchistes cubains, lourdement frappés depuis des décennies par la répression à travers les détentions, les interdictions professionnelles et les obligations de quitter le territoire, continuent contre vents et marées et, malgré leur isolement, à faire vivre leur projet libertaire. En mai dernier, malgré les obstructions des autorités, ils ont organisé en différents lieux le Printemps libertaire de la Havane. Et juste après cette chanson, je vous en parle un petit peu plus en détail avec quelques extraits de leur compte-rendu.
Des lois, encore des lois pour blanchir les puissants qui n'ont même plus la classe, qui sont de vrais faisants. Des interdits partout, t'es pas assez mature pour savoir si tu peux fumer dans la nature, insulter la police ou bien le président, écrire ce que tu veux, chanter ce que tu sens. Y'a des censeurs partout, mentalité de flic ou bien de courtisan rampant dans la milice.
Y'en a marre.
On est tombé bien bas, bien plus bas que tu crois. On se croirait revenu à Vichy chez Pétain, là où les étrangers, les juifs, les arméniens étaient placardés là sous cette affiche rouge, là où Monsieur Bousquet disait personne ne bouge. Ils vont dans ton passé citoyen anonyme, fouiller dans ton casier judiciaire et ça rime, voir si t'es bon français, si t'as de bons réflexes, ne fréquente pas des gens patibulaires mais presque.
Y'en a marre.
On est tombé bien. Alors que le crédit t'encercle, t'infantilise, tandis que les banquiers jouent avec la banquise, que tes amis d'enfance redeviennent étrangers, t'as peut-être quand même des questions à poser. La nuit sur internet partage tes insomnies avec des anonymes et des flics des RG. Tu deviens repérable sur ton adresse IP, t'es cerné en croyant que t'es libre, le blues. Y'a les petits marquis qui te prennent pour un con, avec une arrogance du temps de Napoléon, qui friment avec tes sous dans des cours d'opérette. Mais quand est-ce qu'on les vire? Quand est-ce qu'on les jette?
Identité nationale, Bernard Lavilliers, dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4.
89.4 sur Radio Libertaire, le tour du monde libertaire. Oh, c'est merveilleux. Le dernier week-end de mai, un petit groupe d'amis. Donc, nous sommes à Cuba, nous sommes à la Havane. Le dernier week-end de mai, un petit groupe d'amis avec lesquels nous tentons de donner une vie intermittente à l'atelier libertaire Alfredo López et au centre social libertaire Abra, a organisé les 5e journées printemps libertaire au milieu d'une ville en proie à un effondrement chronique et durable de son système de transport, de son alimentation, de ses installations sanitaires, de ses lieux de rencontre, de son riz et de sa poésie. Tout cela dans un environnement où l'on peut percevoir l'épuisement spirituel et l'exode massif de centaines de milliers de personnes, laissant des vides difficiles à combler et épuisant la créativité. Nous laissant avec un double sentiment d'isolement et de vivre dans un temps qui n'existe plus. Dans ce contexte défavorable, ce groupe de personnes partageant les mêmes idées a estimé qu'il était temps de convoquer une réunion animée par les bons vieux principes de l'anti-autoritarisme, la volonté de cultiver le travail en équipe, l'indépendance de la pensée par rapport aux codes mentaux dominants ou la capacité d'initiative de la base sans demander de permission officielle, des thèmes toujours d'actualité et intacts compte tenu de la paralysie persistante de la vie quotidienne à Cuba aujourd'hui. Prenant le pouls des signes d'épuisement généralisé ainsi que de l'atmosphère de répression préventive et de contrôle policier permanent contre toute forme d'interaction collective sauvage à Cuba, nous sommes parvenus à un accord pour organiser 3 journées d'activités qui se sont déroulées dans des espaces divers et avec une relative autonomie dans la ville. La conférence a débuté dans l'une des majestueuses salles du centre Loyola, un espace culturel actif et pluriel de l'église catholique de la Havane, avec un thème de dialogue intitulé « Espace, figures et idées dans le socialisme insulaire au XXe siècle ». Empruntant le titre homonyme de l'excellent livre du célèbre chercheur José Luis Montesinos. La réunion s'est transformée en une commémoration de la contribution des femmes à l'histoire du socialisme à Cuba et dans ses différentes tendances et son militantisme, un sujet rarement pris en compte tant par les rares mouvements féministes à Cuba que par les récits officiels. Nous nous sommes souvenus d'Emilia Rodriguez, une référence féminine dans le mouvement anarchiste du centre de l'île au cours des 3 premières décennies du XXe siècle et la dirigeante de plusieurs réunions nationales du mouvement anarcho-syndicaliste à Cuba, dont on se souvient rarement, ce qui fait partie d'un effort plus large et continu de la part de Montesinos. Mario Castillo a partagé sa recherche Amparo Loyero, psychologue psychogéographie d'une militante communiste de quartier à travers la Havane du XXe siècle. Une reconstruction analytique de l'histoire de la vie d'une femme qui, grâce à l'essor d'un genre de témoignage à Cuba dans les années 60 et 70, a permis d'entrer dans la densité de la vie quotidienne d'une combattante sociale avec une histoire de vie riche dans son voyage tragique à travers trois quartiers de la Havane. Cela fournit un matériel précieux pour comprendre l'impact psychosocial des politiques staliniennes sur la vie populaire. Le dialogue généré par ces documents a été très enrichissant pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'il s'agissait d'un exercice collectif de récupération du patrimoine de l'histoire du socialisme à Cuba, monopolisé par l'élite stalinienne qui, depuis le Parti communiste cubain, exerce une déformation et un appauvrissement grotesque de la richesse du mouvement socialiste à Cuba, ce qui alimente directement tout l'anticommunisme, également basé sur les casernes, qui prend des formes plus définies partout. D'autre part, nous avons fait de la place à la participation des femmes dans l'évolution des pratiques socialistes à Cuba, un domaine lui aussi habituellement monopolisé par les hommes. Non moins important était le message implicite qui est resté de cette réunion pour le présent et l'avenir que nous réserve l'effondrement en cours. Les anarchistes qui ont organisé cette réunion reconnaissent la diversité des idées et des tendances au sein de l'histoire du socialisme à Cuba et dans le monde, et nous ne pratiquons pas la liquidation mutuelle des richesses de la vie au nom d'un quelconque isme, y compris le nôtre. La deuxième journée s'est déroulée sur l'un des délicieux toits de la vieille Havane qui nous a offert un panorama du contraste existant entre l'or prétendument scintillant du dôme du Capitole de la Havane à l'horizon proche et la misère des milliers d'habitations informelles qui l'entourent. Caché dans les hauteurs des majestueux bâtiments néoclassiques, art nouveau et art déco et éclectiques qui entourent cet imposant monument à l'autoritarisme tropical de la République cubaine du XXe siècle. Bon, je vous laisse découvrir la suite de ce long article signé de l'atelier libertaire Alfredo López de la Havane et traduit par notre ami Daniel Pinos. On se retrouve après cette chanson.
Vivant, vivant, et même titubant sous un vieux soleil ivre, encore tout ruisselant des sueurs de la danse, prince de ses haillons et roi de sa guenille. Les années gagnent un peu chaque jour. Si chaque jour la peur s'encorne plus profond, debout, rester debout devant son taureau noir. Vivant, vivant, avec le désespoir et la mélancolie, avec la rage aussi, entre la viande et l'os. Vivant, vivant, et même dans le blanc du silence hôpital, sous la lumière froide au bout des perfusions, tout au long du couloir où clignote l'urgence. Comme au cœur obstiné de l'orchestre crachant, un opéra d'organes, de moelles et de glandes, tout monte des désirs, des fièvres, des frissons. Vivant, vivant, le sang qui roule des milliers. le fauve rouge dans cette nuit du corps criblé de trop de cris. Vivant, vivant. Et même bâillonné au bout des solitudes, au bout du rouleau triste et des heures perdues, toute parole éteinte et toute étoile morte. Vivant, vivant. Dans la boue, pressentir le chant qui s'élabore, un écho ricochet de décombres en désert, dans le vent qui se lève, humer une odeur d'homme. Vivant, vivant, avec l'aube incertaine et ses oiseaux probables, avec ses mains ouvertes et sa clarté qui vient. Vivant, 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 vivant.
Vivant, une chanson de Jean Vasca interprétée par Marc Augeret dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4.
Eh oui, eh ben voilà, alors on continue à faire n'importe quoi dans cette émission. Je vous promets que ça ne se reproduira plus, enfin on fera en sorte que... je dis justement, je profite que je raconte ce qui me tombe, ce qui me passe par la tête, ce qui me tombe sur la tête. Je vous signale que la librairie Publico sera en fait les 9 et 10 septembre de 11h à 19h. Samedi 9 et dimanche 10 septembre, donc avec donc une grande braderie de livres et de disques et des trucs rares, des trucs vraiment intéressant que vous allez pouvoir toucher entre 1 et 5 euros, vous vous rendez compte, formidable. Et en plus de ça, samedi 9 à 14h, un groupe de punk No Rep qui joueront exceptionnellement en acoustique leurs compositions revendicatrices ainsi que des reprises que vous reconnaîtrez sûrement. Et puis toujours donc samedi 9 à 16h, ce sera Paco Muñoz, un flamenco de Almería à Paris. Dimanche 10 septembre à 14h, ne manquez pas les pétroleuses, musiciennes et chanteuses pour les chants de la commune. Donc tout ça, c'est à Publico, 145 rue Amelot, 75011, Paris, métro, Oberkampf, République, Fille du Calvaire, le 9 et 10 septembre de 11 à 19h. Voilà, ça c'était pour les annonces. Et puis, dans le bout de maquette que j'ai reçu, il y a quand même quelques fiches de lecture. Alors, je vous les donne très rapidement. Attends, il faut que j'augmente la... Voilà, parce que sinon, je peux pas lire, c'est infernal. Oh là là, en plus, je suis pas bon, moi. Tout ce bourreau, non merci, la culpabilité ordinaire. Des hommes vraiment ordinaires, les bourreaux génocidaires, par Didier Epel. Mais ça nous est conseillé par Caillou, un camarade de Toulouse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? De l'enseignement des sauvages, le sauvage et le politique. C'est André Bernard de Bordeaux qui nous invite à découvrir ce bouquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un roman policier noir et rouge. C'est Jean-Marc Reynaud qui nous invite à découvrir ce bouquin, le journal de Louis VII. Édition du Chuncho à Larocque, c'est dans l'Hérault, ça, cette maison d'édition, et c'est signé Édouard Canterelle. Donc, le journal de Louis VII, un roman policier noir et rouge que nous recommande Jean-Marc Reynaud de l'île d'Oléron. Et puis l'anarcho-publication d'informations libertaires. C'est Ramon de Paris qui nous conseille l'été a été chaud et pas seulement au point de vue température, et les nouvelles d'où qu'elles viennent, comme chantait l'autre, n'étaient pas bonnes. Entre guerre en Ukraine, flics excités de la gâchette, pseudo-remaniement gouvernemental, on ne peut pas dire que c'était la joie. Voilà, donc Lancarneau 76. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Il eût fallu que je fasse la lecture complète de cet article. Écoutez, hein, vous achetez Le Monde Libertaire, vous lisez ça, et puis vous découvrez les conseils de lecture. Oh là là, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais une chose pareille. Bien. Et puis, Hugues de Paris également nous conseille la CNT, le mouvement libertaire dans la transition démocratique espagnole 1976-1979 aux éditions ACL à Lyon. Et puis bien entendu, puisque vous en avez un extrait dans ce Monde Libertaire, l'histoire de Nestor Makhno, par Jean-Pierre Ducré, et cette bande dessinée, vous la trouverez, le tome 2, à Publico, entre autres choses, bien entendu. Et puis également une poésie en noir de Monica Jornet, Émeute, révolution, à découvrir dans ce Monde Libertaire, ainsi que l'annonce d'une soirée, toujours à Publico, un livre de Célie Bejarano aux éditions Yellow Concept, Justa ou la force du destin, un livre qui sera présenté par nos amis du groupe Salvador Segui de la Fédération Anarchiste, dimanche 17 septembre à 16h à la librairie du Monde Libertaire. Voilà, et puis bien entendu, comme dans chaque numéro, vous retrouvez la liste des groupes de la Fédération Anarchiste. Comme ça, si vous avez envie de nous contacter pour nous rejoindre, militer avec nous, eh ben ça sera facile. Le prochain numéro, celui d'octobre, s'intitulera Barbecue Mondial, on est cuit. Voilà, ce sera certainement le dossier du mois d'octobre. On aura bien l'occasion d'en reparler d'ici là. D'ici là, moi, je vous dis au revoir et je vous embrasse. Eh oui! Nous voici à la fin de ce tour du monde libertaire. On se retrouve de mémoire le 25 septembre à 18h sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération Anarchiste. Merci, merci, merci à Monique pour tout son travail en régie, mais aussi pour son choix musical. Et vous, merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu, ni maître.
Qu'est-ce qu'on attend ?
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendantes fringues et chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé.